Ce qui me paraît important, c'est de marquer que pour l'Algérie, le triomphe de l'islam a été d'avoir arrimé pour la première fois dans ce Maghreb al-Awsat une langue de culture universelle, pluriséculaire, cela jusqu'en terroir profond, ce qui n'avait pas été fait à l'époque romaine. Là aussi, il y a eu une espèce de revanche de l'intérieur du Maghreb. Comme le disait l'historienne, la regrettée historienne algérienne, elle nous a quittés toute jeune, elle avait un peu plus de 30 ans, Najma Abdelfattah Lalmi, elle a montré qu'elle elle travaillait sur les zaouias de Tapi, que dans la région des Béjaïa, de Sétif, on appelait la Kabylie Jabal al-Uloum, c'est-à-dire la montagne des sciences, la montagne des savoirs, littéralement la montagne des savants. Quadrillée qu'elle était par un réseau serré d'institutions culturelles de Zaouïa, habitée qu'elle était par des lettrés, qui étaient des lettrés du cru, on ne sait pas souvent que des 9 chefs historiques du FLN de 1954, celui qui probablement a le mieux maîtrisé l'arabe classique, ce sont des amis égyptiens qui m'en ont parlé longuement, c'était probablement Hossein Ait Ahmed, qui était le petit-fils de Sheikh Mohammed al-Hossein, c'est-à-dire de la lignée maraboutique la plus illustre de Kabylie, celui qui parlait un arabe aussi de bonne facture, c'était aussi Mohammed Khidr, mais Mohammed Khidr est Hossein Ait Ahmed, d'après mes interlocuteurs égyptiens, ont été ceux qui maîtrisaient le mieux l'arabe. Cela n'a pas empêché ce que j'appellerais le tréfonds berbère de subsister. Mais l'ancrage berbère a coexisté sans trouble véritable avec une culture musulmane et arabe. Juste un exemple. L'auteur de l'hymne algérien en arabe, Rassaman, nous le jurons, nous l'attestons, a été composé à la demande notamment de Abban Ramdan, qui était kabyle, mais qui maîtrisait parfaitement l'arabe, ce qu'on ne dit pas souvent. À la demande de Ben Youssef Bakhreda, aussi de Blida, il a été composé à la prison Barbrousse, où il était enfermé, par le poète Moufdi Zakaria, qui était du Mzab. Et vous savez que, peut-être savez-vous que son fils, le juriste, politologue et historien Sleiman Cheikh, qui a été ministre et ambassadeur, était lui aussi un arabisant qui avait eu une formation universitaire française. Et je rappellerai, chose que j'ai découverte dans la thèse de Julien Fromage sur la Fédération des élèves musulmans du département de Constantine qu'il a soutenue à l'EHSS, pardon, le 15 mai dernier, que Ben Badis, qui appartenait à une famille de la grande Nokhba, de la grande élite constantinoise, il avait écrit dans le Shihab en 1933 ou 34, j'ai oublié, que l'arabe et le français, je cite, devaient être des langues seules. Et on sait que la revue, l'hymne Rassaman a été composé, d'après beaucoup de témoins, par Moufdi Zakaria dans une version berbère, dont on n'a jamais beaucoup parlé. Elle a été enfouie vraisemblablement par plusieurs nationalistes islamo-arabes dans la pénombre des Mecques. Bien. Ceci dit, arabisation, ça ne signifie pas forcément pour l'Algérie la volonté de connaître la totalité de l'héritage culturel arabe. Je m'en suis rendu compte lors de la tournée de conférences que j'ai faite en Algérie en novembre 2011. Par exemple, des jeunes collègues universitaires ignoraient qui était Abul Ala al-Ma'ari, le grand poète et philosophe damascène du XIe siècle, qui était déiste et voire même agnostique quand on le lit bien. Je vous donne une citation de lui, je trouve qu'elle est éclairante. « Les habitants de la terre se divisent en deux, ceux qui ont un cerveau mais pas de religion, et ceux qui ont une religion mais pas de cerveau. » Et fin de citation. Et qui sait que les termes « ilhad »,« ilhad » c'est l'athéisme, « molhid » athée, sont notamment d'après le poète et philosophe égyptien Abderrahman Badawi, attesté en arabe au moins 6 siècles avant leur apparition en français. On sait que le terme athée est inventé par un certain François Rabelais en 1536 dans une lettre écrite à un certain Érasme. Donc Abul al-Ma'ri, Risalat al-Ghufran, c'est 6 siècles auparavant. Bien. Vous savez que le Maghreb, il est passé par l'Algérie, il est passé par Tlemcen, et Ibn Khaldoun, historien et analyste rationnel des sociétés du Maghreb, vous savez qu'il a fini sa vie dans l'angoisse et dans l'accablement suite à des meurtrissures personnelles et en croyant avide de ce qu'on a appelé le temps inaugural, si je reprends la formule du politologue et philosophe Yad Ben Achour, qui a écrit un des plus beaux livres qu'on puisse lire sur l'islam, les fondements de l'orthodoxie sunnite, qui a dû paraître en 2008 ou en 2009. Donc, je voulais déblayer ça pour commencer. En deuxième point, je voudrais traiter des continuités politiques, des foyers des continuités politiques. On sait qu'il y a eu, dans le Maghreb El-Aoussat, des systèmes dynastiques de monarchie berbère depuis les Benoustan de Tiaret, au sud-ouest, au Benouzayan de Tlemcen au XIIIe, XIVe siècle, via au XIe, XIIe siècle, les Benohamad, la Qal'a de Benohamad, du Maghreb médian, du Maghreb al-Aoussat. Je rappelle, mais ça vous le savez certainement, qu'il y a eu 2 tentatives avortées, en tout cas, d'empire maghrébin, celui des Almoravides, puis celui des Allemands. La division tripartite du Maghreb est un fait depuis la fin de l'ère almohade, et ainsi que l'indique la répartition du XIIIe au XVIe siècle des différentes dynasties, les Mérinides, les Ayanides et les Hafsides. Mérinide, Fès, Zayanide, Tlemcen, Hafsid, Tunis et arrière-pays de Tunis se bornant sur le Constantinople. Et c'est le pouvoir état du beylik ottoman qui instaure ce que l'on appelle al-Dawlat al-Jazair, l'état d'Alger. C'est un terme que l'on trouve à partir de 1517, d'après l'historien algérien Lamna Merouche. Il est attesté. La première mention de cette Dawlat al-Jazair date de cette époque. Bien. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des tentatives de fédération maghrébine. Vous savez que l'une de celles qui a avorté, vous savez pourquoi, a été celle qui aurait dû avoir lieu suite à la conférence de Tunis d'octobre 1956 et qui n'a pas eu lieu parce que les 4 chefs historiques algériens ont été kidnappés dans l'avion qui les transportait du Maroc à Tunis et que la conférence n'a jamais eu lieu. De ce Maghreb al-Aoussat, pré-ottoman jusqu'à l'Algérie contemporaine, l'historien peut établir des continuités tangibles, entre autres le fait que les États constitués sont formés un peu à l'instar des communautés du terroir par la permanence de logiques segmentaires et que ces États se ressentent de leurs origines. On n'imagine pas, par exemple, les Ben Hamad de la Qal'a Ben Hamad au sud, à 150 km au sud de Béjaïa, sans leur enracinement originel dans leur Jebel Ma'did et le Hudna occidental, et on n'imagine pas non plus les Ben Zayan de Tlemcen, les Ayanides, sans leur ancrage à la tribu zénète des Ben Wa'd al-Wa'd, des hautes têtes oranaises, où ils avaient été, j'ai appris ça notamment par Pierre Guichard dans le livre qu'il a contribué à écrire dans la Nouvelle Clio, où ils ont été poussés par la progression vers l'ouest de Ben Bilal à partir de la fin du XIe siècle. Pour rebondir sur ces continuités, on parlait encore naguère dans l'Algérie indépendante, je cite, du triangle BTS, années 80-90, c'est-à-dire un triangle d'où était issu la majorité des hommes de pouvoir et de décision. C'était BTS, Batna, Tebessa, Sugeharas, c'est-à-dire en gros le sud constantinois. Et depuis la présidence de Gotfirpa, si l'on en croit la sociologue Maryse Dirk, on n'est plus dans le triangle BTS, le curseur se déplaçait vers l'ouest, et Madame Isdirk appelle maintenant le pouvoir algérien, je cite, le gang de Tlemcen. Fin de citation. Sur la longue durée, on peut remarquer aussi que ce que l'on dénommera le syndrome Nezar, ce qu'on a dénommé le syndrome Nezar. Le général Khaled Nezar était quelqu'un issu du sud constantinois, c'est un Chaoui originaire de Seriana, juste au nord de l'Aurès, et qui a été un fils d'un ancien combattant qui a été adjudant de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, et il a été un des principaux DAF, les fameux déserteurs de l'armée française qui ont été recrutés par le FLN en Allemagne au moment où la Fédération de France du FLN avait émigré vers l'Allemagne et où on leur a donné l'argument suivant, vous êtes de pauvres petits lieutenants français, avec nous, Algériens, de l'Algérie indépendante, vous deviendrez capitaine, commandant, colonel, et j'en passe, et bien entendu. Bien. Donc ce DAF, on les appelle les DAF, il a été dès 25 ans un cadre militaire essentiel de la prise du pouvoir par l'armée des frontières surarmée du colonel Boumediene, qui a organisé la campagne contre les maquisards de la Wilaya 4 qui n'avaient pas d'armes, qui étaient démunis, et c'est sous la conduite de gens comme le futur général Nezar que Boumediene est arrivé à entrer dans Alger après s'être débarrassé des maquisards de la Wilaya 4 sous le fusible politiquement présentable qu'était alors Ahmed Ben Bella. Mais vous savez qu'un fusible c'est quelque chose qui sert à sauter lorsque le système est trop plein. Bien. Ultérieurement, vous savez que Nezar a accédé à une très haute responsabilité, qu'il a été ministre de la Défense, et qu'après l'annulation du second tour des élections législatives de janvier 1992, il a été de 2 ans durant l'un des 5 membres les plus importants du HCE, le Haut Comité d'État. Bien sûr, il y a eu des contrastes importants entre ces gens issus du terroir, les ruraux bédouins d'une part, et ceux qui s'appellent les Hadariyoun, c'est-à-dire les citadins, les civilisés. Et ces citadins civilisés n'avaient pas forcément comme vision une Algérie telle que l'apprennent les manuels d'histoire scolaire. Moi, j'ai rendu visite à un ancien professeur d'arabe de la médiathèque de Tlemcen, issu d'une des plus hautes familles de Tlemcen, et quand je lui demandais si, quand vous écoutez la radio algérienne, je n'écoute pas la radio algérienne, j'écoute la radio marocaine. C'est-à-dire qu'en effet, à Tlemcen, on se sentait plus proche de manière culturelle et civilisationnelle avec les Fassis qu'on ne pouvait se sentir avec l'intérieur de l'Algérie. De même que j'ai discuté avec un grand notable constantinois originaire d'Annaba en 1970, qui lui trouvait tout à fait naturel d'écouter de la musique tunisienne, Fidal Sahati, Klitet Matem, ça je l'ai entendu pour la première fois à Annaba, alors que c'est une chanson tunisienne. Bien. Ceci dit, il y eut des évolutions palpables et des différences avec les deux autres États du Maghreb, malgré la proximité de langue, de religion, etc. Même si la Tunisie et le Maroc sont des pays cousins de l'Algérie, le système actuel de pouvoir, autant que les ressentis de la société, se sont bel et bien forgés dans des relations et dans la lutte contre le pouvoir colonial, cela après 132 ans de colonisation française. Vous savez que la Tunisie n'a eu que 75 ans de colonisation française et le Maroc, peu cher, n'a eu que 44 ans. Et vous savez que ni le Maroc ni la Tunisie n'ont été organisés en département français en copier-coller de la France comme l'a été sur le plan administratif l'Algérie. Et même sous la coupe française, vous savez qu'ils ont gardé leur système étatique respectif sous l'égide du Bey de Tunis, d'une part, du Sultan du Maroc, d'autre part. Et vous savez que le système de protectorat était différent de celui qui a régi l'Algérie coloniale. Bref, même si culture et idéologie avaient des ressemblances, il y avait des distances avec les deux pays voisins. Et dans un pays où forgés par la colonisation française et dressés contre elle, se sont arrogés le pouvoir des gens qui sont souvent des parvenus issus du terroir, je parlais des DAF tout à l'heure, dont, à mon avis, ni le Maroc ni la Tunisie n'ont des équivalents aussi nombreux avec. Rapidement, je voudrais parler de la société algérienne et des traits d'identification de cette société algérienne. Je vous ai parlé tout à l'heure du tréfonds berbère qui a été peu à peu surimposé, mais pas forcément détruit par une culture arabe. Je pense que l'identification musulmane s'explique pour les Algériens parce que elle représente sur le temps long la culture profonde du pays. On sait que l'islam en Algérie est un aboutissement de bien des sédimentations du sacré et d'un sacré antérieur, bien antérieur à l'islam. J'ai vu le règlement d'accès au temple de Tuburbo-Majus. Bon, je sais que c'est pas en Algérie, c'est à mi-chemin entre l'Algérie et la Tunisie, mais ça peut se trouver en Algérie, du temple de Tuburbo-Majus d'Esculape, Asclepios. Article 1er, nul n'entrera dans le temple s'il mange du porc. Article 2, nul n'entrera dans le temple s'il n'enlève pas ses chaussures. Article 3, nul n'entrera dans le temple s'il est une femme, s'il n'a pas la tête voilée. Et nous sommes 6 siècles avant l'islam. C'est-à-dire que l'islam reprend, ce qu'on appelle l'islam, la culture islamique, reprend bien des traits d'un passé antérieur. Pourquoi l'importance de l'islam? Parce que, et là je reprends le terme que tout le monde connaît, je pense, de Jacques Berthe, ça a été un bastion de repli permettant au quotidien de résister à la domination coloniale, c'est-à-dire qu'il s'agissait, consciemment ou non, de défendre la société locale, la culture et la société locale, la société au sens de l'organisation communautaire d'une société qui était régie, comme partout ailleurs dans le Maghreb et dans le monde méditerranéen, par l'endogamie patriarcale. Ceci dit, il y a eu un réveil du fait berbère à Mazir, patent face à l'autoritarisme et à la langue de bois officielle à partir du printemps berbère de 1980, mais toujours avec la Kabylie au premier plan à l'avant-garde. Tant et si bien que, vous le savez, le pouvoir d'État a dû consentir, après l'explosion du boycott scolaire de la rentrée 94, création, je cite, d'un haut commissariat à la mazérité. Et il a reçu en 2009 la dénomination de haut conseil à la mazérité. Il y a eu en effet quelques initiatives en faveur du tamazirt. Depuis 2002, il est reconnu comme langue nationale. Nationale, mais pas officielle. Et un nombre non négligeable de cours de tamazirt ont été ouverts dans les établissements d'enseignement public, surtout université et secondaire, et relativement beaucoup moins au niveau primaire. Sur un plan historiquement symbolique, deux mots sur ce qui s'est passé dans l'Aurès oriental, fin 20e siècle, début 21e siècle. Une association locale qui s'appelle l'association Aurès Al-Kahena a pu, après des années et des années de lutte, ériger à Baraï, près de Khenchla, c'est à 10 km, je crois, de Khenchla, qui était l'antique citadelle de la résistance donatisme contre le catholicisme romain, une statue de la Kahena. La Kahena, vous savez qu'en arabe, c'est la devineresse, la prêtresse devineresse, et il paraît qu'en tamazir, moi je ne connais pas le tamazir, excusez-moi, on l'appelle Dia ou Damia. Bon. Et elle avait été la haute figure de la résistance berbère, Zénète en l'occurrence, contre l'invasion arabe fin 7e, début 8e siècle, et vous savez qu'elle a fini en martyr, décapitée, et sa tête a été envoyée à Damas, au 5e calife omeyyade qui devait s'appeler, si je me souviens bien, Abdelmalek. Or, ils sont arrivés à ériger cette statue, je l'ai vue, je la connais, elle existe bel et bien, mais elle a été déclarée impie, coffre, par plusieurs notables de l'obscurantisme officiel, et pourtant le pouvoir algérien a consenti, en définitive, à ce qu'elle soit érigée, mais j'ai entendu des critiques de berbères, de militants, qui ne pouvait pas admettre que le nom de l'héroïne n'ait été sur la stèle de la statue écrite qu'en langue arabe. C'est-à-dire on a une statue d'une héroïne berbère, mais c'est écrit seulement en arabe. Ça lui est certainement une transaction, je te donne ceci, tu me donnes cela en échange. Bien. Ceci dit, je n'insisterai pas sur les divergences qui existent entre les berbères en Algérie, ne serait-ce que sur l'alphabet à utiliser pour écrire le tamazight, caractère arabe, alphabet phonétique international, Otifinar, cet antique alphabet qui est encore usité uniquement à l'heure actuelle, d'ailleurs je crois, en pays Touareg.
Comment ? C'est l'alphabet officiel du tamazight au Maroc ?
C'est ça, c'est l'alphabet officiel du tamazight au Maroc. Maintenant, mais pas en Algérie. En Algérie, il y a... Bien, alors, je terminerai par vous dire deux mots de ce qu'on a appelé le colonialisme croisé, Al-Istikhmar al-Salimi, et ses relations avec la destinée algérienne. Bon, vous savez qu'il y a une histoire officielle nationale en Algérie, faite par des clercs, des érudits officiels, et ça, ce n'est pas un phénomène spécifiquement algérien. Moi, j'ai fait partie de la génération des vieux. Des vieux Sibanis qui ont appris l'histoire dans le primaire avec les manuels de Lavis, vers Saint-Gilles-sur-Vix, nos ancêtres les Gaulois, tous les gens de mon âge ont appris ça. Et moi, pendant les 6 mois que j'ai passé en Égypte, j'ai feuilleté des manuels scolaires égyptiens et j'ai été frappé aussi par l'étonnante continuité qui existe entre, d'une part, Ramsès et d'autre part, l'Égypte de Nasser. Et vous savez que un des modes de légitimation du régime nassérien, ça a été de faire appel à ces symboles de l'antiquité égyptienne. C'est en 1955, très peu de temps après l'arrivée de Nasser au pouvoir, qu'une colossale statue de Ramsès II a été installée sur la place Ramsès, juste devant la gare de Bab el-Hadid, au centre de la ville, et qu'elle a été enlevée finalement en 2006, suite aux détériorations vues à la pollution du Caire. Il paraît qu'elle sera installée dans le futur musée égyptien qui prendra à Gizeh la place du musée de l'actuelle place Tahrir, qui est le seul que j'ai connu quand j'y étais. L'historien officiel algérien, qui est resté pendant longtemps le pivot du système officiel de l'histoire, il s'appelait Ahmed Tofer al-Badati, même s'il était en réalité bien autant tunisien qu'algérien, et peut-être plus tunisien qu'algérien. Il est quand même d'origine algérienne. Il a conçu l'histoire de l'Algérie à la manière des manuels égyptiens, de Ramsès II à Nasser, et à la manière des manuels français de Vercingétorix à Napoléon. Remplacer Vercingétorix par Jugurtha, remplacer Napoléon par Abderrahmane, et vous aurez à peu près du copier-coller. Donc, il y a eu toute une génération plus récente de clercs algériens, souvent plus médiocres que ce Lavis algérien, et qui ont été enfoncés dans ce que j'appellerais l'obscurantisme structurel. Et les manuels d'histoire algérien, je ne vous en parlerai pas, je pourrais vous en parler, sont un mixte de références de temps long et de langues de bois bien actuelles, même si il faut reconnaître qu'ils ont été légèrement peaufiné, amélioré en 2002 ou 2003, je ne me rappelle plus les dates exactes, enfin au début du siècle. Mais on ne comprendrait pas l'Algérie contemporaine si on ne connaissait pas ce syntagme forgé par Ahmed Tofer al-Badati, Al-Istikhmar al-Salimi. C'est-à-dire, c'est le colonialisme, il est croisé. C'est-à-dire que la colonisation, elle ne date pas de 1830, elle est bien antérieure, elle remonte aux croisades. Donc, c'est une dérivée des croisades. Il s'inscrit dans la même lutte que mène le monde musulman contre l'Europe chrétienne. Je rappelle très rapidement que du 8e ou 11e siècle au 12e siècle, les musulmans avaient largement dominé la Méditerranée, la route de la soie, la route des épices, la route de l'or par Sahara interposé. Et cela, avant l'offensive des marchands, des commerçants génois et vénitiens, secondairement barcelonais et marseillais, à partir surtout du XIIe siècle. On sait que les croisades, sur arrière-plan religieux, furent aussi, pas seulement, mais elles furent aussi une entreprise de reconquête économique. Et à partir de la fin du XIVe siècle, les navires portugais contournent le cap de Bonne-Espérance, la route de l'or est ruinée, le trafic saharien s'appauvrit, et les cités où aboutissaient ces richesses s'appauvrissent. Si on compare par exemple Tlemcen au XVIe siècle avec Tlemcen au XIVe siècle, c'est la dégénérescence irrémédiable. Bien. Donc, je termine rapidement. L'affaissement de la Méditerranée a été fait en raison de d'une modification de l'orientation des échanges, le fait que l'Atlantique a progressivement remplacé la Méditerranée, ce qui fait que pour des raisons d'appauvrissement, il y a eu un repli sur la course. Et c'est la raison pour laquelle cette course, qui a prospéré au XVIIe siècle, a commencé à dégénérer aussi au XVIIIe siècle, à partir vraiment du moment où la Méditerranée est devenue une zone qui avait été dépossédée de ses bateaux au profit de l'Atlantique. Et c'est une constante qui a fragilisé ce Maghreb médian. Et en même temps, le Beylik, pour avoir son blé, pour avoir sa richesse, s'est retourné contre les paysans de l'intérieur, a exercé des réquisitions contre lui, aggravant l'appauvrissement des populations de l'intérieur, puisqu'il s'est vengé sur l'intérieur de ce qu'il ne pouvait plus récupérer sur les marchandises de la Méditerranée. Donc, on en arrive maintenant à l'aboutissement, c'est l'Algérie, Al-Watan al-Jazairi, c'est Watan, la contrée, la patrie algérienne, qui est très différente de l'état citadin tunisien d'une part, et de l'autre part de ce bloc tribal marzénien marocain. Donc, la fameuse formule de Malek Ben Nabi, vous connaissez, l'Algérie a été colonisée parce qu'elle était colonisable, en soi, moi, je ne la juge pas en tant qu'historien comme totalement irrecevable. Et l'Algérie a été une espèce de vide créateur, comme Brodel disait que la Méditerranée est un vide créateur. En Algérie, l'Algérie a été un territoire qui a été un entre-deux éminemment créateur, avec toutes les continuités millénaires que j'ai essayé de voir, avec aussi le lien avec l'Oumma al-Mohammediya, avec la communauté musulmane universelle, qui fait partie des constantes, mais ces constantes ne sont pas les seules à définir la continuité de l'Algérie. Je termine par la conquête. Vous savez que c'est dans un contexte général d'appauvrissement et d'aversion générale pour le Beylik qu'a été entreprise la conquête de l'Algérie. Elle fut en particulier due à l'insistance de la Chambre de commerce de Marseille, qui, sur fond de dépérissement de la Méditerranée, voulait trouver de nouveaux débouchés. Vous savez que c'est cette volonté qui a coïncidé avec les causes politiques de la monarchie française de la Restauration, qui voulait se retrouver une légitimité, ce qui n'a pas marché. Vous savez que le roi Charles X a été vidé 25 jours après la reddition d'Alger, du 5 juillet 1830. Donc, au total, je dirais, vraiment en épilogue, là je promets que je n'en dis pas plus, que les Algériens n'ont jamais eu vraiment le sentiment de bénéficier des bienfaits d'un État qui soit capable de redistribution au bénéfice du bien commun, de ce qu'il extorque par la fiscalité ou par les réquisitions des lieux. Il y a eu la domination coloniale, il y a eu l'État colonial à partir des 1830, qui n'ont pas véritablement changé la nature des rapports avec l'État tel que cela a été le cas avec l'État ottoman, sauf que, volens-nolens, il y a eu un changement, un bouleversement radical, sans précédent, des manières de voir, de sentir et d'exploitation économique de la société. Là, je cède la parole maintenant à André Nouchi, et qu'elles seront grosses de mutations qui sont irréversibles et qui sont inédites dans l'ensemble de l'ère maghrébine et aussi de l'ère islamo-arabe, et qui font, à l'heure actuelle, l'incontestable singularité des Algériens. Je vous ai parlé des continuités, on va maintenant vous parler des ruptures.